Vous êtes comme chaque mercredi à 17h30 à l'écoute du magazine USTL Info. L'USTL Info, c'est un magazine qui présente non seulement l'actualité, c'est plutôt les structures, les projets, les grands projets de l'Université de Lille. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une association qui s'appelle l'Association de solidarité des anciens personnels de l'USTL. Et donc nous accueillons Joseph Losfeld, qui est président donc de l'ASA, cette association dont je viens de dire le titre d'une manière complète. Bonjour monsieur Losfeld.
Oui, bonjour.
Donc une association qui regroupe les anciens personnels.
Les anciens personnels, toutes les catégories de personnel. Personnellement, j'étais enseignant. Nous avons des anciennes secrétaires, des techniciens, des personnels de service qui, après une vie professionnelle au service de l'université ou du CNRS dans l'université ou de tel ou tel organisme sur le campus, se retrouvent au moment de la retraite en dehors d'une vie active et qui, pour certains, souhaitent retrouver des activités, des contacts, un réseau de relations.
Alors, j'ai beaucoup entendu parler, bien que je ne l'ai pas vécu, le traumatisme lié à l'arrêt de l'activité professionnelle qui, pour certains, pèse vraiment sur la vie des gens une fois qu'ils se retrouvent hors d'un cadre structurant et riche.
Mais c'est quelque chose que je découvre. Je suis président depuis un an et donc j'ai, avec le président de l'université, participer à l'accueil des anciens partis en 2006 et partis en 2007. Et c'est 80, c'est 70, 80 personnes chaque année qui prennent leur retraite, certains partant un peu plus tôt, un peu plus tard. Sur ces 80 personnes, il y en a une grosse moitié, 60%, qui se rapprochent de l'association. D'autres, les autres s'en vont, nous quittent. Et sur ces 60%, là, sur ces 80 personnes, 20-30, au moment de la retraite, s'aperçoivent que les enfants sont ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les enfants sont en Europe, sont dans le monde, sont partis, qu'il n'y a plus de conjoints ou la vie ayant fait les choses, on se retrouve deux en tête à tête. Le travail ayant été l'essentiel des relations sociales, l'essentiel de l'ouverture sur le monde et sont très contents, souhaitent pouvoir se raccrocher à quelque chose, donner de leur temps, participer, être actifs. Et je vous dis là, peut-être pour un quart des personnels sortant de l'université, l'ASA est une occasion de recréer un réseau de relations sociales qui était présent dans le travail et qui n'existe plus au moment où le travail disparaît.
Donc un réseau de relations sociales, mais en même temps, d'un point de vue concret, est-ce que ces gens qui se regroupent ont envie de mener ensemble des projets qui peuvent être parfois ambitieux, peut-être à vous de nous dire.
Bien, bon, vous avez reçu, je crois, si mes souvenirs sont exacts, Guy Séguier il y a quelques semaines.
Absolument, hein. Ouais,
bon, voilà, ça représente un pôle dans lequel on retrouve aussi bien des universitaires comme Guy Séguier que des techniciens qui, dans le fond, sont en train de se battre pour créer, avec les gens de la culture ici, hein, et de l'espace culture, sont en train de se battre pour créer une mémoire dématérielle, hein, retrouver les équipements, les matériels de travaux pratiques, de laboratoires, de l'ancienne faculté des sciences. En gros, nous, on démarre, plus exactement, on termine en 1968-70, c'est ce qui s'est passé avant, pour essayer de récupérer des vieux livres, hein, des vieux documents, des appareils de laboratoire qu'on remet en état. Là, ça, c'est un pôle. Alors, vous avez une autre personne qui serait intéressante de recevoir ici à l'occasion, c'est Arsène Risbourg, qui est l'un des créateurs de cette association, qui, lui, est plutôt dans la capitalisation des écritures. Nous avons eu des grands anciens qui, à la fin du 19e siècle, dans la première moitié du 20e siècle, ont créé des laboratoires, on a encore leur nom, dans les salles d'enseignement, et on essaie de créer, d'écrire, de retrouver les documents, d'aller au centre départemental d'archives, de plonger dans les archives des laboratoires et d'écrire d'écrire l'histoire des institutions. Là, on a actuellement, par exemple, on vient de perdre le professeur Bacchus, qui est en informatique, qui avait créé l'analyse numérique. Pierre Pouzet, qui à peu près à la même époque, a créé un petit peu le laboratoire d'analyse numérique. Et du coup, des collègues de ma génération, qui étaient les assistants, les maîtres assistants de ces professeurs, sont en train de se dire, tiens, c'est le moment de commencer à écrire l'histoire de l'informatique dans l'université. Ça commence au début des années 60, place Philippe le Bon. Les mémoires sont encore là, les gens sont encore là, il y a encore des documents, tout n'est pas disparu et on va y travailler. Ça, si vous voulez, c'est un élément fort en interaction avec l'université, les racines. Hein, comment hier explique aujourd'hui, comment relier demain, aujourd'hui et hier, hein, sur ses volontés. On a beaucoup travaillé aussi, certains membres de l'association, avec l'exposition qui a lieu actuellement au Musée d'histoire naturelle à Lille, sur Inter-Âge, qui est un petit peu l'histoire du bassin minier, l'histoire géologique du bassin minier, et l'histoire industrielle, enfin industrielle sociale du bassin minier depuis du 18e siècle jusque maintenant. Eh bien, là, l'association sur mémoire, souvenir, ancrage, on s'y retrouve tout à fait.
Alors donc, dans l'ensemble de cette association qui est constituée de personnel de l'USTL, on peut dire qu'il y a à la fois des gens qui ont une culture large et des gens qui ont été très dynamiques du temps de leur activité professionnelle. Est-ce que ça amène à réaliser des projets qui vont de l'avant et qui aussi font la passerelle avec les nouvelles générations ?
La passerelle avec les nouvelles générations, pour l'instant, peut-être, ce serait quelque chose qu'il faudrait travailler. Plusieurs fois, on m'a demandé, association de solidarité des anciens étudiants. Et on sent bien, quelque part, là, qu'il y a un manque et une attente. Alors bon, c'est pas notre rôle vraiment aujourd'hui, mais on a essayé de faire des choses. Par exemple, l'année dernière, on a créé, grâce à un legs d'un ancien universitaire qui s'appelle André Lebrun, qui a créé le QEP historiquement, la formation continue à l'université. Grâce à ce legs, on a créé un prix de la formation continue. Donc, avec les IUT, les écoles d'ingénieurs, l'unité de formation de sciences économiques et sociales, la physique, la chimie, on a essayé de repérer une vingtaine d'étudiants salariés redevenus étudiants par la voie de la formation continue. Et on s'est donné les moyens non seulement de fournir un prix à celui qui nous a paru être à la personne, une jeune femme d'ailleurs, qui nous a paru être la personne qu'il fallait aider par un don financier, mais aussi pour tel ou tel qui aurait réussi un parcours, terminé un master par la voie de la formation continue, en ayant un travail et des enfants, sans mari, eh bien, d'utiliser notre réseau de relations pour lui mettre le pied à l'étrier par rapport à un stage qu'elle cherchait pour son mémoire. Mmh. Ou pour prendre des contacts pour une évolution de job, pour avoir un travail en rapport avec les nouveaux diplômes. Mmh. Voilà l'action significative récente que nous avons faite pour essayer de faire un lien avec l'université vivante d'aujourd'hui.
Alors, quand on voit des associations, par exemple, comme la FEV, qui donne un coup de main aux enfants en difficulté sur le plan scolaire, ou d'autres associations qui travaillent à aider aussi des jeunes qui sont peut-être sortis un peu du système scolaire, est-ce que vous, vos compétences par rapport au monde étudiant ne pourraient pas être également investies pour aider ces jeunes qui, parfois pour certains, éprouvent des difficultés qui sont d'ordre de l'apprentissage ou peut-être même relationnelles à trouver des solutions.
Oui, l'association ne prend pas en charge ce genre de choses, mais nous faisons des ponts. Mmh. L'Assemblée générale qui aura lieu dans 6 semaines, nous avons prévu en deuxième partie un coup de phare sur le bénévolat. On a 3 collègues anciens de l'université qui sont les piliers de la Croix-Rouge à Lille. Au sens où ils y travaillent de manière... Enfin, ils y travaillent, ils ont une activité qui dépasse un mi-temps chaque semaine, 40 semaines par an, pour accueillir des personnes sans papier, pour faire un domicile légal, pour tenir des vestiaires, pour des choses de ce genre-là. On a des militants de chez nous qui travaillent dans le soutien scolaire, mais dans le cadre, en général, plutôt d'associations dont l'objectif est celui-là. Quand, il y a quelques années, une dizaine d'années, le rectorat avait sollicité des collègues de l'université pour faire du soutien scolaire, un certain nombre d'entre nous, j'y étais pas, ils sont allés et ont encore des activités aujourd'hui de tutorat, de suivi de 3 jeunes, de 5 jeunes, 2 fois par semaine, des choses là. Là, nous faisons plutôt le relais. Mmh. La solidarité, si vous voulez, pour nous, c'est aussi la solidarité dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous avez les jeunes retraités, encore dynamiques, qui ont leur autonomie, leur capacité à agir. Et puis, vous avez une rupture, là, entre 75 et 85, où vous avez des gens qui se retrouvent beaucoup plus isolés, qui ne peuvent plus participer aux activités dont on parlera. Donc, c'est le bulletin qui va les informer, c'est le coup de téléphone. C'est à l'occasion d'un anniversaire, un coup de fil, une visite. Ce qu'on essaie pour les seniors des retraités, hein, et qui ont notamment ceux qui ont participé à la création de l'association, c'est de conserver un contact avec la génération précédente qui les a bien connus. Mmh. Excusez-moi. Envoyer ou amener un ballotin de chocolat à l'occasion de Noël, prendre contact quand on apprend le deuil de l'époux ou de l'épouse, être présent et éventuellement aussi à ces moments-là. Ça, c'est quelque chose de difficile. On a un gros travail autour de l'aide à domicile. Enfin, pas nous-mêmes à nouveau, mais en interface. Vous êtes en difficulté à Lausanne, vous êtes en difficulté à Lille. C'est quoi les associations que nous connaissons et qui peuvent vous apporter un coup de main en termes de ménage, en termes de toilette, en termes de... quelles sont les possibilités qu'il y a de se faire apporter des repas, etc. Mmh. Donc, si vous voulez, on voit bien que dans notre public, on a ce public de 62, 65 ans... qui à l'université avait accès à un ordinateur, qui rentre chez soi, qui doit acheter un ordinateur, mais est-ce qu'il faut vraiment un antivirus? Mais il faut que je prenne Wadadou. Bon, ben voilà, donc on a un atelier informatique où on va parler un petit peu de tout ça. Mmh. Et puis on a eu un appareil photo pour le départ en retraite, et ça fait 3 fois que je le branche, 3 fois que toutes les photos viennent sur l'ordinateur. Mais qu'est-ce que je dois faire de tout... Bon, c'est ça aussi. Et à travers ces activités, des gens qui étaient un peu seuls, parce que dans le fond, nous, notre objectif, c'est que les gens fassent des choses ensemble. Mmh. Hein, donc vous avez donc cette activité autour de l'atelier informatique. On pourrait croire qu'aujourd'hui, des gens qui quotidiennement utilisaient les mails en fac quand ils rentrent chez eux, ben, c'est pas si simple, parce que justement, l'université a rendu complètement transparent les petites choses qu'un jeune comme vous n'aura aucune difficulté à télécharger un antivirus, le mettre à jour, des choses de ce genre-là. Donc voilà un type de choses. On a des activités d'ordre artistique et manuel. Beaucoup, au moment de la retraite, font des choses qu'ils aimaient faire, qu'ils faisaient un peu, font plus longtemps. Chaque année, Ce que nous organisons, c'est une exposition des productions artistiques de nos membres, enfin de nos membres au sens large du terme, des personnels en exercice de l'université, des amis des membres, enfin si vous voulez, on est quelque chose. Et on a 100 personnes qui vont, c'est Guy Séguier qui s'occupe, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui s'occupe de cette opération-là, qui viennent vous présenter qui une sculpture, qui une mosaïque, qui une peinture, qui des dessins, qui des poèmes, qui un montage vidéo, et très naturellement, en s'appuyant sur le réseau de relations qu'on a rencontré dans l'université, ben, un jour, multimédia, il faudrait qu'on fasse un montage. Bon, ben, on va voir du côté du QEP ou du côté des services pour nous aider, pour aider ceux qui ont envie de le faire à monter quelque chose qui sera présenté au public et des activités de ce genre-là.
Alors, pour beaucoup de gens, la retraite, quand on travaille, ça peut être un espoir. Certains se demandent même s'ils l'auront un jour ou s'ils la vivront. Pour ceux qui y accèdent, est-ce qu'entre l'image qu'on en avait, la projection qu'on en faisait de ce qu'on ferait plus tard et la réalité de ce qu'on y fait vraiment, est en décalage ?
Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai rencontré, si vous voulez, la disponibilité que nous avons, là, les membres du bureau, parce que nous sommes retraités aussi, et nous sommes présents deux demi-journées par semaine, le mardi matin et le jeudi matin, sur le campus, dans les locaux que l'université met à notre disposition au P7, montre que les personnes se retrouvent démunies, hein, se retrouvent seules. Quand ils étaient ici, il y avait quand même un réseau de relations personnelles de travail, souvent amicales, quelquefois conflictuelles, mais en général dans de bonnes conditions. Et en cas de difficulté, pouvoir échanger, pouvoir parler. Là, sur ces 80 qui partent en retraite chaque année, on en sent 15-20 qui sont vraiment très seuls. Et c'est d'abord cette difficulté-là. La deuxième difficulté ensuite, c'est de ne pas vivre la retraite comme des vacances perpétuelles. Pour finir, en 6 mois, en 1 an, j'ai rien fait. Et puis j'ai pris de mauvaises habitudes. Je sais plus me lever, je sais plus avoir des rythmes. Et donc, on sent qu'il y a un besoin, un souhait. Nous, on a pour les ateliers, il y a des horaires cadrés. Quand on a quand quelqu'un accepte de prendre une responsabilité, bien sûr, s'il n'est pas disponible, à condition qu'il prévienne la veille, ça pose pas de problème. Mais il peut pas parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas envie de venir, etc. Donc, il y a, à se redonner un cadre de vie avec des moments, des choses à faire, des activités, et qui ne soit pas simplement ce que pouvait être un moment de vacances où pendant 15 jours, 3 semaines, on se liquéfie complètement et on laisse toutes ces choses. Voilà un petit peu une aide qu'on peut avoir, qu'on peut aider. Beaucoup aussi souhaitent se cultiver. Alors là, il y a des choses très bien sur l'île et on n'a pas. Nous, on se contente de donner l'information. C'est l'université du temps libre, c'est l'université populaire. Et c'est sûr qu'on a un certain nombre de nos scientifiques. Il y a eu toute une série de conférences cette année à l'Université populaire sur la religion, sur la culture, sur les relations entre religion et culture. C'est sûr que j'y ai rencontré et on y a vu un certain nombre de collègues qui étaient le nez sur, j'allais dire, leur microscope ou sur leur calcul et qui, à un certain moment, au moment de la retraite, se dit « Attends une minute ». Qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce qu'on va, veulent avoir un peu de distance par rapport à une activité scientifique qui était très, très prenante. Alors, ce genre d'activité de conférence culturelle, on ne l'a pas développé parce que ça existe très bien, il y a des échanges institutionnels entre nos associations.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour bien préparer sa retraite ou son départ, pour mettre les chances de son côté d'avoir des activités fructueuses qui continuent à faire travailler l'intelligence des personnes qui ont travaillé à temps plein au niveau du cerveau pendant longtemps et qui se trouveraient peut-être en rupture de faire fonctionner ce qui a été une grande partie de leur vie, ce qui serait quand même dommage de gâcher, par exemple. Puis aussi, quelles sont les précautions à prendre pour donc éviter ce choc de la cession d'activité. Est-ce que le fait de travailler déjà bien en amont, je veux dire 5 ou 10 ans avant, dans des associations, à tisser un lien avec des gens dans le cadre de projets qui intéressent et qui peuvent être porteurs après la retraite aussi de développement, ne serait pas une solution?
C'est tout à fait envisageable. Alors, bon, les solutions sont différentes. Entre l'universitaire qui tranquillement va devenir professeur enseignant émérite, va continuer à aller au labo régulièrement, terminer une ou deux thèses, aller encore ponctuellement à un congrès, et le personnel de l'administration du A3, de gestion financière ou de gestion de personnel, les ruptures ne sont pas identiques. Hein. Je ne sais pas si on peut beaucoup anticiper, parce que on a aussi eu des enfants plus tard. La retraite coïncide un certain nombre de fois avec il y a les deux cas, avec le départ des enfants et des couples, des jeunes couples ailleurs. Mmh. Et d'un autre côté, on voit des personnes qui se mettent tellement à la disposition de leurs enfants qu'ils sont submergés par les petits-enfants. Mmh. C'est, rien n'est possible parce que le soir à 16h, tous les soirs à 16h, parce que ah ben non, on ne peut pas faire un bon. Il y a de justes équilibres. Hein. Mmh. Trop, c'est trop. Une vie professionnelle dans laquelle il n'y a à côté aucun réflexion, engagement. Ici, ça va être syndical, là, sur les solidarités, sur le développement durable. Et qui aboutit sur une retraite brutale, un volet qui se ferme, c'est difficile. Hein. Les niches qu'on a trouvées dans la vie professionnelle disparaissent parfois, et quand on n'a pas une vie sociale un peu déjà développée. Alors sur des projets. Ça pourrait être intéressant. On n'a pas encore réussi à mûrir ça, mais j'en parlais au début de l'entretien. Pourquoi pas autour des associations d'anciens élèves? Enfin, mm-hmm. Comment des universitaires sortant de l'IEA ou de l'IUT pourraient, avec les élèves qu'ils ont connus, les anciens élèves, avoir des réseaux d'insertion professionnelle, de stages, de choses de ce genre-là, mmh. avec nos collègues du service d'information et d'orientation de l'université, par exemple. C'est sûr qu'il y a... De toute façon, il y a une disponibilité. Et c'est au bout d'un an, deux ans, que les gens viennent nous dire « qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc, c'est sûr que si nous mettions... On peut imaginer de mettre en avant des projets sur lesquels les personnes vont s'engager. Ensuite, il y a le poids de la santé, il y a le poids de, il y a le poids des petits-enfants. Hein. Ça, c'est quelquefois un autre piège, parce que ces petits-enfants, puis d'un seul coup, ils arrivent au collège, on n'a plus besoin des grands-parents, et on a 10 ans de plus, et 10 ans après, se réinsérer dans un autre réseau. Bon, d'où les multiples ouvertures que nous proposons.
Alors, beaucoup de gens, en avançant dans le temps, ont toujours une pensée rétroactive ou rétrospective sur leur vie personnelle et ont tendance à considérer qu'avant, c'était mieux. Quand on est en retraite et quand on a avancé dans le temps, Est-ce que, malgré tout, on se pose encore la question, est-ce qu'on a encore un jugement réaliste, voire objectif, sur l'actualité du monde, et notamment, puisqu'on parle de l'Ilin, de ce qui s'y passe? Par exemple, il y a des choses nouvelles qu'on peut constater, comme la maison des étudiants, c'est quand même quelque chose de nouveau et à mon avis d'important, et d'autres choses, antérieurement, l'espace culture ou d'autres choses. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce développement, ou est-ce que les gens que vous représentez ont un regard sur ces événements?
Oh, ils ont un regard sur ces événements. C'est sûr que il y a 18 mois, quand on était en période d'élection présidentielle à l'université, nos collègues ont été intéressés par les échanges et les débats et le fait de voir apparaître plutôt des gens de l'économie et de la sociologie qu'un physicien a interpellé. Ça nous a intéressé de rencontrer le nouveau président pour comprendre vers où il nous emmène, etc. Un peu ces ruptures de génération avec les vice-présidents qui se sont mis en place fait que un certain nombre d'entre nous sont allés, quand ça a été possible, écouter, comprendre les politiques qui se mettent en place. Hein. Bon, en même temps, c'est quand même la vie sociale plus large qui va intéresser le développement durable, si vous voulez. Ça, voilà quelque chose dont on entendait parler quand on était dans l'université et pour lequel, avec une autre association qui s'appelle les Jardins d'Athéna, qui est aussi de la périphérie de l'université, on essaie de réfléchir et ça intéresse. Dans le fond, est-ce qu'il y a vraiment des choix forts? Et ces choix forts, comment ils peuvent être intégrés dans les études? Comment ils pourraient être intégrés dans notre vie, dans notre développement? Voilà le genre de choses qui... Le genre d'ouverture, hein, si vous voulez, qui nous intéresse plus. Alors, l'espace culture, hein, c'est sûr que l'espace culture, d'autant plus que une bonne partie de nos projets mémoire sont coportés avec l'espace culture et le vice-président. Donc, là-dessus, on est bien au clair avec eux. La maison des étudiants, bon, c'est plus loin.
Mmh. Alors, Monsieur Joseph Losfeld, donc... Votre association, dont on rappelle le nom, Association de solidarité des anciens personnels de l'USTL, pour être complet, on peut la contacter, on peut la retrouver où, comment?
Bon, ben, on est au P7, hein, on est au P7, à côté du CAS, du service d'action sociale, où on partage la salle de réunion, etc. Et on est sur l'annuaire de l'université. On est un peu comme une petite composante de l'université spécifique, hein, voilà, sans difficulté. Notre adresse, c'est asa@univlilin.fr.
Et est-ce que vous avez des permanences?
Alors, l'équipe d'animation est très présente le mardi matin, après-midi, jeudi matin. Et il y a un secrétariat léger qui est disponible lundi, mardi, jeudi matin sur le campus.
Et si vous aviez un vœu, une demande particulière, un souhait, ce serait?
Un vœu, une demande particulière, un souhait... Ben, je ne sais pas, vous me parliez de projets mobilisateurs, ben, ce serait d'y être associé.
Je vous remercie beaucoup, M. Losfeld.